J'ai revu totalement ce qui
se passe. Moi, c'est une diplomatie au cas d'engage. En combinant les deux, je vais précisément trouver une solution par rapport à ça.
Bienvenue à ce premier numéro de Parole aux auditeurs de la semaine. Le service fiscal au centre de notre émission. C'est depuis le mois d'août dernier qu'une campagne sur le service fiscal a été lancée à travers le pays. Campagne lancée juste après l'atteinte du point d'achèvement par la RDC de l'initiative des pays pauvres très endettés. La fiscalité et l'ensemble des pratiques relatives à la perception des impôts et autres prélèvements obligatoires. La récolte de ces fonds permet à l'État de fonctionner et d'ailleurs les impôts, taxes et redevances sont les principales sources de revenus d'un État. Que pensez-vous de cette campagne sur le civisme fiscal? Nous avons invité pour vous M. Dieudonné Locadi, il est le directeur général de la Direction générale des impôts. Pierre-La Mégie, Christine Coutou sont à la réalisation de cette émission, sans oublier que Willem Lundembou est à la mise en onde, Marie-Chantal Lumba à la présentation. Soyez les bienvenus.
Parole aux auditeurs. Pour intervenir en direct ou envoyer un SMS, composez le 081-99-77-800 par internet ta@radiookapi.net.
Bonjour, monsieur le directeur général.
Bonjour, madame.
Avec vous, nous aurons près d'une heure pour échanger, que ce soit avec nos auditeurs, parce que quand même, la campagne fiscale, c'est quelque chose de grand, parce que sans fiscalité, il est difficile pour un État de fonctionner correctement, parce que l'État a besoin de ses fonds. Et aujourd'hui, la campagne a été lancée depuis le mois d'août. Aujourd'hui, nous sommes au mois de janvier. Dites-nous un peu, quelles sont les avancées sur le terrain?
Bon, merci. Encore une fois, je crois que depuis que la campagne a été lancée par Son Excellence Monsieur le Président de la République le 4 juillet, après cela, c'est le ministre des Finances qui a eu à lancer au niveau du ministère. Les régies ont pris le relais. Et au niveau de la Direction générale des impôts, il y a plusieurs activités qui ont été développées dans ce cadre-là. Il y a eu d'abord les affichages, les différents messages pour sensibiliser l'ensemble de la population. Il y a eu des rencontres d'information, il y a eu des rencontres de sensibilisation, il y a eu des émissions radio-télévisées, il y a eu la cérémonie de délivrance des attestations d'exemption à l'impôt personnel minimum. Il y a eu donc plusieurs activités qui ont été développées, mais le sentiment que j'ai maintenant, je pense que la campagne doit se poursuivre encore. Parce que s'il est vrai que la DGE a pu atteindre certains publics cibles, en fait, certaines catégories de contribuables avec lesquels il y avait peut-être quelques difficultés d'interprétation des textes, mais il reste à poursuivre la campagne afin d'atteindre la grande masse.
Oui. Est-ce que vous avez essayé d'avoir des chiffres depuis que la campagne a été lancée à ce jour? Est-ce que vous avez augmenté le nombre des contribuables? Est-ce que les gens viennent payer leurs impôts, leurs taxes et redevances?
Bon, je dirais que pour certaines catégories, on a enregistré certaines améliorations, mais il reste que une bonne évaluation devrait la faire d'abord par rapport à une échéance qui tombe aujourd'hui. Là, il s'agit en fait de l'échéance de souscription de la déclaration de l'impôt personnel sur la rémunération du mois de décembre 2010 et qui est accompagnée avec un état récapitulatif en fait de toutes les déclarations souscrites pour l'année 2010. Mm-hmm. Et c'est en fait sur base de cette déclaration que nous devions établir les attestations d'exemption pour l'exercice 2010. Mm-hmm. Et lorsque nous aurons reçu l'ensemble de ces déclarations, nous allons apprécier s'il y a une certaine amélioration. Mm-hmm. Mais effectivement, au niveau de contribuables aussi, donc des effectifs des contribuables du répertoire que nous gérons, mm-hmm. on a enregistré une certaine amélioration, mais on doit dire que c'est encore timide. C'est encore pourquoi j'ai dit que il me semble que la campagne doit se poursuivre.
Mais quand même, vous avez des chiffres au niveau de votre direction, combien de contribuables vous avez dans le pays et vous estimez atteindre quel nombre?
Bon, le nombre de contribuables que nous gérons aujourd'hui, avec ceux qui sont répertoriés dans nos différents services, c'est autour de 35 000. Mm-hmm. Vous me direz que effectivement 35 000, c'est trop peu.
Oui, c'est insuffisant par rapport à la population
active. Mm-hmm. Mais il faut se rapporter aussi au système fiscal qui est le nôtre. Mm-hmm. En fait, c'est un système qui s'appuie essentiellement sur l'imposition indirecte. Oui. C'est-à-dire, par exemple, pour les employés, en ce qui concerne l'impôt personnel sur les rémunérations, chez nous, on aura enregistré un contribuable, mais derrière ce contribuable, là, vous pouvez trouver 5 000 ou 10 000 agents.
Donc peut-être faut-il revoir un peu comment on peut enregistrer, comment répertorier aussi les contribuables, ce qui permettrait d'avoir des chiffres assez exacts.
Oui, c'est-à-dire que dans l'état actuel de la... Disons, pour que nos auditeurs puissent bien comprendre pourquoi je parle du chiffre de 35, je voudrais dire que les systèmes s'appuient sur une perception indirecte. C'est-à-dire que quand on dit qu'il y a un contribuable, par exemple la DG, parce que la DG aussi c'est un contribuable, parce que nos agents payent l'impôt personnel sur les rémunérations, vous aurez la DGI avec un numéro d'impôt. Mais la DGI a plus ou moins 7 000 agents. Donc, derrière ces numéros-là, il y a 7 000 agents. Mmh. Oui, c'est pour permettre d'apprécier. Mais à la fin de la campagne, nous voulions enregistrer, un accroissement assez sensible du nombre de contribuables. Mmh. Mais comme on l'a toujours dit, il faudra aussi que nous puissions enregistrer un certain accroissement de l'assiette qui est déclarée.
Okay. Et il faudra aussi rappeler à nos auditeurs que nous avons le directeur général de la DGI ici dans notre studio, mais il y a aussi d'autres régies financières qui aussi essaient de pouvoir maximiser leurs recettes, notamment l'OFIDA et la DGRAD. Mais entre-temps, nous allons prendre les auditeurs pour qu'ils nous disent ce qu'eux ils pensent de cette campagne sur le civisme fiscal.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Séraphin.
Oui, bonjour à Madame Marie-Chantal Lumba.
D'Ouvira, est-ce que vous avez, à Ouvira, on a aussi lancé la campagne sur le civisme fiscal, notamment dans le sud Kivu.
Non, bon, présentement, Ouvira, jusqu'à présent, cette campagne sur le civisme fiscal n'est pas encore vue. Parce que actuellement, les gens ne sont pas vraiment sensibilisés. Mais moi, je pense que pour maximiser les recettes, il ne suffit pas seulement qu'il faut passer par la campagne. Du coup, il y a beaucoup de choses que la DGI doit d'abord revoir pour parvenir à ce qu'elle puisse maximiser ses recettes. Je dois vous dire, il y a beaucoup de causes qui sont à la base de non-maximisation des recettes. Je dois d'abord prendre certains causes. Il y a d'abord la non-mécanisation des plusieurs agents de la DGI. Autre service générateur de recettes aussi. Comment voyez-vous, ici chez nous par exemple à Ouvira, il y a des agents de la DGI, qui sont là, il y a 3 ou 4 cas d'autres mécanisés. Et puis ces gens-là, ils ne touchent absolument à rien à la fin du mois. Ils sont en train de mobiliser les recettes. Et ces recettes qu'ils mobilisent, c'est là au profit de qui? Est-ce que du trésor public ou de la poche de cet agent? Parce qu'ils ne reçoivent rien de la DGI. Ça, c'est la première chose d'abord. Il y a la raison aussi de la familiarisation de certains contribuables avec certains cadres de la DGI. Parce qu'aujourd'hui, vous verrez certains contribuables, ils sont familiers à certains agents au cadre de la DGI. Et cela implique même à ceux qui ont des orientations de recettes dues au crédit public au profit des intérêts personnels. Et aussi, même la dernière appris, cette pratique occasionne aussi la promotion des activités exercées sur le secteur informel. Ça, c'est la deuxième raison d'abord. La troisième raison que je voudrais aussi évoquer, parce qu'on est bien vite là, c'est aussi la raison de réticence. Parce que, à cette raison de réticence, moi, j'aimerais que la deuxième puisse procéder à des mesures concrètes. Parce qu'il y a des personnes qui ont dans les professions libérales, par exemple. Donc, les professions de l'université, les médecins, les défenseurs judiciaires, tout ça de leurs obligations. Alors, c'est ça de préalablement que c'est une introduction. Nous disons même pas que c'est une introduction. Donc, ils donnent nos socialement créer l'impôt.
Oui,
mais alors, ils sont en train de sensibiliser, ils sont le contraindre. Ils sont le contraindre aussi, après, c'est peut-être parce qu'ils sont informés que l'impôt, c'est une obligation.
Oui, et Séraphin, nous allons revenir avec le directeur de la DGI sur les contraintes qu'on peut appliquer aux contribuables pour qu'ils puissent effectivement payer leur impôt. Mais Séraphin, en gros, vous avez essayé de soulever certaines causes qui ne permettent pas à ce que l'impôt soit payé correctement ou bien toutes les autres ressources soient payées correctement. Mais aussi, vous avez fait allusion à certains détournements des fonds, aussi au manque d'amélioration des conditions de travail des personnes qui travaillent, qui sont chargées en fait de percevoir, de recueillir cet impôt. Merci beaucoup, Séraphin Doubira, mais je tiens à signaler que quand même au Sud Kivu, nous avons eu des informations qu'à Bukavu, on avait déjà lancé cette campagne de civilisation et civique fiscale, mais que peut-être qu'à Ouvira, ce n'est pas encore arrivé, comme vous l'avez
dit. Non, mais Ouvira, ce n'est pas franchement, je te dis, à Ouvira, ce n'est pas encore adhéré, ce n'est pas encore permanent, cette sensibilisation.
Merci, Séraphin, pour votre participation à cette émission. Nous allons au Bandundu. Bonjour, Malonga.
Oui, bonjour Marie Chantal.
Oui, et que pensez-vous de la campagne? Est-ce qu'elle a été lancée dans votre ville?
Oui, c'était lancé maintenant notre radio locale ici, Bandundu FM. Mm-hmm. Mais ce n'est pas tout à fait efficace. Vous savez, tout le monde, ou bien c'est la population, ne suit pas la radio.
Mm-hmm.
Après, il aurait fallu partager cette sensibilisation par la voix des ondes, celle de la radio, par des journaux aussi, puisque ici en tout cas nous sommes en carence, hein. Les journaux, nous ne parlons pas des journaux vraiment ici. Et puis aussi par des voix aussi des églises, hein. Si on fait passer ce message dans les églises, je crois que même la basse population peut se préparer très bien pour payer.
Est-ce que vous avez quand même constaté au niveau des populations, est-ce que les personnes, les contribuables ont vraiment cette envie ou reconnaissent qu'ils doivent nécessairement payer ces impôts-là?
Oui, c'est ça que je voulais dire. Hein? Payer l'impôt, c'est un droit civique.
Un devoir.
C'est un devoir que chaque population ou bien chaque personne doit être censé vraiment payer l'impôt. Mais ici chez nous, lors d'un bourgmestre de la commune de Bassoko, il était à un coin dans sa commune pour faire passer ce meeting et ce message de payer l'impôt. Mais il y avait un petit soulèvement, hein, ce n'est pas que par des paroles.
Mm-hmm.
Et pourquoi nous allons commencer à payer l'impôt? Or, nous ne voyons pas, en tout cas, l'ampleur des changements dans notre pays.
Mm-hmm.
C'est ce que j'étais dans ce meeting. C'est par là où j'avais tiré que, donc, il aurait fallu que notre État d'abord allait faire quelque chose que la population peut être vraiment ambiancée ou bien attirée de payer cet impôt. Vous savez que notre pays, il y a longtemps que nous vivions comme ça sans pour autant savoir l'importance de l'impôt. Bon, pour recommencer ça, il faut prendre ou bien il faut initier plusieurs stratégies pour convaincre cette population.
Il faut convaincre.
Ça peut provoquer quelque chose, soit de réussite à la population, or c'est pour leur intérêt, ou bien soit par les attentes ou bien incompréhension.
Oui, alors en gros, Malonga, en fait, c'est de savoir à quoi sert l'argent qui sera payé à travers les impôts, les taxes, les redevances. Et si on voit à quoi ça a servi, ça permettrait d'encourager la population à vraiment payer toutes ces taxes, redevances et impôts. Merci Malonga de Bandundu. Oui, en gros, vous souhaitez qu'on puisse renforcer les moyens pour diffuser l'information concernant le civisme fiscal, mais aussi avoir plus d'informations, à quoi vont servir tous ces fonds qui seront recueillis, surtout avoir la transparence dans la gestion de ces fonds. Nous allons à Tikwit, nous restons dans le Bandundu. Bonjour Arsène.
Bonjour madame.
Arsène, vous avez suivi Malonga, Séraphin, ils ont souhaité renforcer les moyens de communication pour cette campagne, mais aussi voir dans quelle mesure lutter contre les causes qui ne stimulent pas les contribuables à pouvoir verser ces frais. Arsène, quel est votre avis?
Ok madame, merci beaucoup pour m'avoir accordé la parole.
Mm-hmm.
Je crois que nous parlons fiscalité. Le fisc a comme frère jumeau, je crois, c'est la crédibilité, ou frère jumelle, si vous le voulez bien. Alors, dans ces pays, comme l'a dit Malonga à Bandundu, on a passé toute une période où on ne sait même pas payer l'impôt, et où la population ne sait pas exactement à quoi ça sert. Moi, je vais intervenir dans le sens que notre système, c'est un système qui est tellement, je ne sais pas dire, si je peux employer des mots durs, mafieux, que depuis un certain moment, il y a, on dirait, l'aller sans retour. Le fait qu'ils vont dans la caisse de l'État. Moi, je suis parmi les contribuables. Mais en retour, qu'est-ce que la population reçoit? Tenez, il y a maintenant 5 ans de législature qui va aller vers la fin. Nous croyons, ici, par exemple, où la campagne est un peu timide, et les gens s'en foutent pas mal de vos impôts-là, sauf ceux qu'on est en train de chercher à contraindre, parce qu'ils font quelque chose, ils ne savent pas ce que son travail, parce qu'ils doivent se rendre les comptes. Mais voyons un peu du côté du gouvernant, parce que jusque-là, c'est le gouvernant qui vient chercher de l'argent à la population. C'est son droit, il vient chercher de l'argent. Mais à son tour, qu'est-ce qu'il doit à la population? C'est ce que je disais il y a 5 ans de législature. Nous, ici à Chypre, par exemple, nous n'avons rien vu. Rien, madame.
Donc aussi, vous avez la même préoccupation que Malonga, savoir ce qui est en retour. Mais comme vous le savez très bien, la DG ne fait que collecter et renvoyer. Donc c'est comme vous l'avez si bien souligné que c'est le gouvernement qui est en charge de pouvoir exécuter un programme. Et vous n'avez rien constaté à tout de suite. En conclusion, pour qu'on puisse donner aussi la parole à Théophile de Sananga et à Eric de Goma, Arsène.
Ok, en conclusion, je dirais ceci. Que le gouvernement essaye de gagner la confiance de la population, comme je l'avais dit la fois passée.
Mm-hmm.
Sinon, nous vivons la fameuse histoire, comme je l'ai dit la fois passée, des animaux malades de la peste. Hein? Vous savez bien que c'est des
animaux.
Je crois que ça conclut tout.
En tout cas, merci Arsène de Kikuit. Bonjour Théophile.
Bonjour Marie-Chantal Lumba.
Oui, Théophile, vous avez la parole.
Oui, madame, il faut d'abord reconnaître, parce que ici, dans la province où je me retrouve, la campagne n'a jamais été lancée jusque-là. Moi, je suis un grand auditeur de radio locale et aussi internationale. Je n'ai jamais suivi la vieille chaîne locale qui suivait une information en rapport avec la campagne de civisme fiscal.
Mm-hmm.
Bon, en fait, il faut reconnaître que la campagne en soi est très bonne. C'est-à-dire qu'on peut faire comprendre à l'individu qu'il devient civisme fiscal. Parce qu'il faudra que ça soit intuitif dans les chefs de chaque contribuable.
Mm.
Mais contrairement à ceux qui pensent que pour payer l'impôt, il faudra d'abord que le gouvernement puisse réaliser ceci, alors que l'impôt n'a pas un caractère de contrepartie, contrairement à la taxe qui, après un service rendu, peut payer aussi la taxe.
Mm.
Mais je voudrais revenir à trois petites préoccupations que j'adresse à l'invité. La première, quelle est la procédure normale de collecte d'impôts? Il faudra que les contribuables puissent eux-mêmes se rendre à la division ou service de fisc où les agents de fisc passaient maison par maison ou boutique ou magasin par magasin pour collecter l'impôt.
Mm-hmm.
La deuxième préoccupation, comment expliquer que les agents de régie financière ont un train de vie meilleur que ces contribuables?
Mm-hmm.
La troisième préoccupation, est-ce que ces agents de régie financière paient aussi l'impôt?
Merci Théophile. Deux questions, procédure normale pour la collecte d'impôts et le train de vie, comment vous avez constaté que les agents de ces régies financières ont un train de vie élevé par rapport aux contribuables. Les questions sont tombées dans les oreilles de notre invité, il va vous répondre tout juste après Eric de Goma, que lui aussi puisse donner son avis sur cette campagne sur le civisme fiscal. Bonjour Eric.
Bonjour Marie.
de Goma. Nous vous écoutons.
Bon, s'agissant de la campagne de civisme fiscal, je n'en ai pas vu aucune, mais on promet. Il faut dire parce que la DGI, la douane, je ne sais pas, toutes ces sortes de
dépôts.
Oui, oui. Bon, je n'ai vu que le patron de la DGDA qui est passé et qui a dit que désormais il faut qu'il y ait quelques taxes qui lui-même a précisé qu'au moins c'est un petit peu inconnu, d'autres ne sont que arbitrés. Mais on voudrait poser une question à l'invité. Sinon, qu'est-ce qui lui aurait répondu à ces gomatraciens qui pensent que les fonds collectés dans ces fonds d'entreprises, le gouvernement ne les garde que pour qu'en fait, ils leur servent la campagne pendant la période électorale. Ça, c'est la première question. Parce qu'en principe, ce sont des fonds qui seraient en train de venir à la rescousse, autrement dit, donner des salaires à la gratuité de l'enseignement qui a été prôné ici aussi pour donner des salaires aux médecins, aux militaires, mais pratiquement parce qu'ils ont entendu parler que d'après qu'ils ont commencé cette campagne, ils ne enregistrent que certaines améliorations, mais au moins, d'après, je sais pas, la logique de la loi, ce sont les fonds-là qui, à un certain moment, seraient en train d'intervenir dans des domaines sociaux, mais on ne voit rien. Je trouve que l'État lui-même prône la gratuité des enseignements, mais on ne donne rien et on continue.
Donc, votre préoccupation, c'est presque la même que la préoccupation d'Arsène et même de Malonga. Vous indignez un peu que ces fonds collectionnés servent plus aux individus, par rapport, vous avez même donné un exemple pour la campagne électorale, et non l'intérêt général. C'est un peu votre préoccupation. Merci, Eri, pour votre participation. Je rappelle à tous les auditeurs qui nous suivent que le 081-890-69-69, vous pouvez participer ou carrément nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Et aujourd'hui, nous parlons du civisme fiscal.
Le débat politique, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous, car Dialogue entre Congolais, ce sont aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h, et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Et dans cette émission, nous avons invité pour vous Monsieur Dieudonné Loukadi, il est le directeur général de la DGI. C'est l'une des régies financières qui arrive à donner à l'État des fonds pour fonctionner, qui arrive à collectionner surtout les impôts. Vous avez suivi nos auditeurs, plusieurs préoccupations, crédibilité de la structure, traçabilité, aussi procédure de collecte des impôts, autant de préoccupations, mais nous allons essayer de structurer cela et aller petit à petit pour pouvoir répondre aux préoccupations de nos auditeurs. Nous pouvons passer par cette première préoccupation, d'abord l'efficacité dans les moyens de communication. Certains pensent que ce n'est pas assez efficace, qu'ils ne savent pas vraiment ce qui se passe au cours de cette campagne sur le civisme fiscal.
Ok, merci. Je voudrais d'abord remercier tous les auditeurs qui ont eu à poser une question. Ça prouve que le sujet est assez intéressant. Ils comprennent en fait la pertinence même de la nécessité de payer l'impôt dans notre pays. Je vais tenter de répondre à quelques préoccupations. Je crois que la campagne a démarré effectivement, mais peut-être que nous n'avons pas encore atteint tous les points. Mais toutes les provinces ont effectivement démarré la campagne.
Dans les
chefs-lieux. Mm-hmm. Et même dans les coins les plus reculés, c'est encore peut-être timide. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y avait peut-être nécessité qu'on puisse poursuivre de manière à atteindre même ceux qui sont dans les coins les plus reculés. Il y a des auditeurs aussi qui ont voulu que nous puissions diversifier nos moyens d'intervention pour atteindre tout le monde. Il y en a qui ont dit que la voix des ondes ne suffit pas parce que tout le monde ne suit pas la radio et même peut-être la télévision.
Parce que même à travers les églises.
Les églises, les journaux. Effectivement, il y a des actions. Au départ, au démarrage de la campagne, son excellence, M. le ministre des Finances, avait signé un protocole d'accord avec la CENCO. Mm-hmm. Et la CENCO aussi est impliquée dans la campagne. Mm-hmm. Mais cette implication est réelle, mais au niveau vraiment de la base.
Au niveau de l'église catholique.
Au niveau de l'église catholique.
Et aussi des églises de réveil, des églises, des communautés musulmanes.
Oui, bien sûr. Dans le cadre du programme de la campagne, on a prévu aussi des actions spécifiques pour les autres groupements, en dehors même des églises.
Mm-hmm.
Et à ce qui concerne les journaux, je crois que les différentes actions que nous menons sont relayées par les différents journaux.
Mmh.
Bon, il y a eu des préoccupations aussi sur la crédibilité même de l'administration par rapport à certaines actions peut-être de nos agents. Je voudrais donner d'abord la précision suivante, parce qu'on a fait état des agents de la DGI qui ne seraient pas
Mécanisés, donc les conditions de travail ne permettent pas en fait à ces gens de pouvoir, qu'ils vont percevoir autant d'argent, et s'ils ne sont pas bien, ne sont pas dans des bonnes conditions, c'est plus facile pour eux de détourner.
Bon, je crois que la règle générale, nos agents sont connus et mécanisés. Mais les cas qui sont évoqués, ce sont des cas des agents, des nouvelles unités, dont le processus de mécanisation est en cours depuis un certain temps, parce qu'il faut des recensements, vous savez qu'il y a la fonction publique qui doit intervenir. Le processus est en cours. Mais l'essentiel de nos agents sont bel et bien mécanisés. Ils touchent leurs primes régulièrement, sauf ceux dont le processus de recrutement est en cours.
Oui, mais en fait, ce contraste, c'est vrai qu'il y a, notre auditeur d'Ouvira qui a souhaité qu'on puisse améliorer les conditions de travail pour certains agents, mais aussi l'avis d'un autre auditeur, par exemple Théophile de Kananga, qui pense que le train de vie des agents des régies financières, c'est assez pompeux par rapport, bien sûr, au salaire qu'on entend. Donc, est-ce que c'est lié? Non,
je crois que cette idée-là n'est pas correcte. Il faut dire que les agents des régies financières ont des primes assez conséquentes. Il suffit tout simplement d'aller dans les régies pour savoir que bon, c'est parmi les agents de l'État qui sont tout de même plus ou moins bien rémunérés.
Mais il y a eu quand même des grèves, hein, il y a eu des soulèvements.
Non, je pense que cette année-ci, nous n'avons pas connu
les grèves. Il y a quelques jours.
Non, parce que son excellence, M. le ministre des Finances, a garanti le paiement régulier des rétrocessions, ce qui nous permet de pouvoir payer le salaire, disons, les primes aux agents. Et je crois que cette année-ci, nous avons terminé l'année 2010 sans qu'il y ait de problème de grève. Et nous pensons que, disons, avoir les engagements pris par l'autorité, nous n'aurons pas de problème pour l'année qui commence.
Pour le cas de la DGI, parce que la DGRAD, quand même, il y a eu des soulèvements.
Moi, je crois qu'à la DGRAD, le problème s'est posé au niveau, disons, des services d'assiette. Mais je crois que c'est une question qui est en discussion, qui pourra être réglée. Mmh. Mais les grèves, comme on en a connu dans le temps, qui impliquaient l'ensemble des régies, je crois que le problème qui était à la base de ces grèves-là a plus ou moins été résolu.
Mmh. Oui, nous allons venir sur la modalité. Une dernière préoccupation, celle de savoir, c'est vrai que vous êtes des régies, qui vous êtes là que pour essayer de pouvoir mobiliser les recettes et pouvoir les percevoir, mais aussi la préoccupation des auditeurs, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a en retour. C'est vrai que l'impôt, comme l'a expliqué un auditeur, on n'attend pas directement un retour, c'est peut-être la taxe, mais en fin de compte, il y a une seule caisse de l'État qui va servir pour pouvoir satisfaire aux besoins des populations. À votre niveau, c'est vrai que vous n'êtes là que pour recueillir, mais est-ce qu'il vous arrive aussi de pouvoir faire des pressions pour que ça puisse permettre aux contribuables de mieux verser leur impôt lorsqu'il y a des choses qui sont faites sur le terrain?
Mais, madame, je crois que nous vivons tous dans ces pays, nous voyons quel effort est en train d'accomplir le gouvernement en matière d'amélioration des infrastructures routières, des hôpitaux. Il y a plusieurs actions qui sont menées par le gouvernement dans les cadres de 5 chantiers. Et je crois que les cinq chantiers sont financés bel et bien par les trésors publics. C'est par le fonds que nous mobilisons. Et là, je dois dire que pour que l'État puisse faire mieux, Il importe que nous puissions tous payer. Parce que mieux nous mobilisons, mieux il y a des ressources, mieux l'État peut s'occuper des aspects sociaux qui sont évoqués par les différents auditeurs ici. Donc la question de la, disons, de la redevabilité, parce que c'est cela qui est en cause, quand on cherche à ce que le gouvernement puisse bien rendre compte, il faut que nous puissions d'abord donner. Parce que si vous n'avez pas donné, mais qu'est-ce que vous allez exiger? C'est ça, en fait, la question qu'il faut se poser. Il faut d'abord donner à l'État qu'on ait suffisamment de moyens et qu'on vienne contrôler, parce qu'en fait, il y a des structures de l'État, le Parlement est là pour contrôler si les moyens qui ont été mis à la disposition du gouvernement ont été bien utilisés. Donc, on n'a pas d'inquiétude à se faire. L'obligation, c'est de pouvoir payer. Et mieux nous payons, mieux l'État pourrait intervenir aussi à améliorer les conditions. Mais
apparemment, ce n'est pas suffisant parce que presque tous ceux qui sont intervenus, ils trouvent que ce qui est fait, en tout cas...
Madame, nous sommes un très grand pays, mm-hmm. hein, et je crois qu'on l'a toujours dit, ce que nous mobilisons est encore insuffisant pour permettre à l'État de pouvoir... disons, mieux financer tous les biens publics sur l'ensemble du territoire.
Et là, on revient sur la question de traçabilité. Est-ce que c'est possible aujourd'hui, une personne qui paye son impôt, de pouvoir savoir où est-ce que c'est parti, à quoi ça a servi et retrouver cela?
Madame, je voudrais d'abord préciser ceci. On ne paye pas auprès des régies, mm-hmm. parce que cette idée-là est répandue.
Mm-hmm.
Le contribuable vient auprès d'une régie pour chercher un titre qui lui permet de payer auprès d'une banque. Et les fonds sont nivelés automatiquement au profit du trésor public. C'est-à-dire qu'il est interdit, parce que la question a été
évoquée,
il est interdit à un agent de régie, sauf dans des coins, le pire qu'il est où il n'y a pas de banque, où il y a des autorisations spéciales, de percevoir directement des fonds auprès d'un contribuable. C'est le contribuable en principe qui doit s'approcher du service, obtenir un type de paiement et aller payer auprès d'une institution financière agréée. C'est cela la procédure. Et tout ce qui est donné directement, ça c'est interdit. Mais nous insistons là-dessus.
Donc à tous les auditeurs, surtout Théophile de Kalanga, qui voulait avoir des précisions, savoir quelle est la procédure normale, le directeur général vient de donner toutes ces précisions. Nous allons écouter Tarita de Mbandaka, Jean de Moba, Nyimbo de Kalima.
Parole aux auditeurs.
Bonjour Tarita. Tarita?
Ouais, bonjour madame, meilleurs voeux de Nouvel An.
Merci. Vous êtes en Mbandaka, vous nous suivez sur 103.0 FM. Dites-nous, est-ce que vous avez constaté cette campagne sur le civisme fiscal dans votre milieu?
Moi, d'abord je me présente, je travaille à la DGRA de Mbandaka.
Mm-hmm.
Mais je n'ai pas encore senti cette campagne.
Et à votre avis, est-ce que c'est nécessaire de pouvoir mener une campagne sur le civisme fiscal?
Oui, c'est très nécessaire parce que moi, j'ai maintenant 60 ans. Quand nous avons grandi, nous savions qu'on payait l'impôt. Et ça a commencé aux collectivités. Donc le contribuable est donné et l'argent et la collectivité, zone et puis province. Voilà. Donc quand le monsieur sur le plateau dit que donc on doit passer à la banque, tout ça, je ne suis pas convaincu parce que la collectivité pouvait aussi collecter cet argent et envoyer à la zone, et la zone envoie au district province, c'est pour toute la République. Oui, et cela, on l'apprenait même à l'école.
Mais
le citoyen devait payer son impôt, vous savez.
Mais l'invité lui-même l'a dit que c'est dans des milieux où il n'y a pas de banque où il collecte l'impôt. Mais dites-nous, c'est vrai qu'il est nécessaire d'avoir ses bons. Est-ce que vous pensez à vos alentours, et plutôt comme vous êtes vous-même agent d'une régie financière, est-ce que vous constatez que la population vraiment est convaincue qu'il faut payer l'impôt? Est-ce qu'il y a vraiment un engouement lorsqu'on doit payer l'impôt, taxe ou redevance?
Oui, moi je pense que l'État est là, il est là comme policier. Donc, quand il dit, il donne l'ordre, les gens doivent aussi obtempérer. Mais quand il n'y a pas les gens ne sont pas motivés, personne ne saura qu'est-ce que l'impôt. Moi, je sais que quand l'impôt est là.
On a perdu le Tarika de Mbandaka qui est en train de nous expliquer parce que lui-même est quand même agent, donc il va sur le terrain, il voit comment ça se passe. Et merci Tarika, on va essayer de pouvoir vous recontacter pour avoir votre conclusion, si c'est possible, si la technique le permet. Nous prenons d'abord Jean Moba, à Moba plutôt. Bonjour Jean.
Bonjour.
Oui Jean, vous avez la parole.
Ok, merci de m'avoir accordé la parole.
Mm-hmm.
Alors, j'avais une préoccupation ou deux. En fait, il est suffisamment bon parce que nous savons que les sources de l'État, ce sont les impôts, les taxes et consorts. Mais ce qui nous font regretter, c'est que normalement la destination ou la finalité de ces fonds, ils ne nous révèlent pas certaines réalités. Nous avons vécu certains cas, par exemple, sur la contribution professionnelle sur la rémunération. Vous trouverez que quand il y a un employé qui fait un travail quelque part, il paye l'impôt à la fin de chaque mois. Mais si par hasard, cet agent finit par être remercié, nous ne voyons pas la réaction de ce fonds-là. Où est-ce que ça va et ça fait quoi? En plus de ça, nous suggérons seulement à l'État de définir un mécanisme transparent sur les types de quittances, parce qu'il y a des quittances qui sont falsifiées ou peut-être mal conçues de part et d'autre, mais qui n'attestent pas que les fonds collectés vont juste à la destination.
Donc, savoir un peu...
Nous suggérons aussi qu'il y ait une publication en zone des fonds collectés et à quoi ça va servir. Comme ça permet à ce que les gens soient aussi motivés sur ce qu'ils font comme...
On a perdu aussi Jean, mais en gros, on a suivi ce que vous voulez, plus de transparence, il y a une publication pour savoir combien de fonds ont été récoltés, comment ça a été... utilisé. Nous avons Jeff qui nous a écrit à partir de Kinshasa à travers pa@radiocapi.net. La DGI elle-même ne paye pas les primes de ses agents. Il y a ce qui entraîne des conséquences sur la maximisation des recettes car il se paye à la source en voyant le train de vie de ses agents. C'est ce que pense Jeff de Kinshasa. Il ajoute ceci, nous pensons que la campagne n'a pas réussi car il ne suffit pas seulement d'afficher, il faut toucher les églises, les partis politiques pour expliquer le bien fondé du paiement des taxes et impôts. Notre problème, c'est la mauvaise gouvernance dans la gestion des moyens qui ont été récoltés. Il y a aussi le taux de l'impôt, trop d'impôts tue l'impôt. Est-ce que le directeur général peut nous dire combien de contribuables y a-t-il en matière d'impôts locatifs sur les superficies bâties et non bâties? Qu'en est-il de la résistance du paiement de l'impôt par certains parlementaires? Pourtant, eux devaient prêcher par l'exemple. Il faut réduire l'impôt locatif passé de 20% à 5% afin de faire enrôler tous les bailleurs redevables légaux et après avoir un fichier exhaustif, on pourra monter progressivement à 10 à 15% jusqu'à atteindre 20% et cela va encourager les bailleurs de payer l'impôt car ils n'ont jamais payé, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas vraiment l'importance de cet impôt. Et voilà ce que nous a écrit Jeff de Kinshasa. Et nous demandons à Kitashi de Kikuit qui voulait participer de pouvoir nous rappeler, comme ça permettra d'avoir son bon numéro de téléphone parce que le numéro que nous avons ne passe pas, Kitashi, si vous êtes à Kikuit, et si vous êtes en train de nous suivre en ce moment, essayez de nous rappeler pour nous donner votre numéro de téléphone pour que vous puissiez aussi participer à cette émission. Je rappelle, c'est le 081-890-69-69, et dans ce studio, nous avons le directeur général de la Direction Générale des Impôts, Monsieur Loukadi, qui est notre invité au cours de cette émission.
Parole aux auditeurs.
Avant de redonner la parole à monsieur le directeur général, nous prenons Niembo de Salima. C'est vrai, Niembo, vous êtes en ligne, bonjour.
Oui, Marie-Santa, bonjour. Je remercie d'abord pour me recevoir à cet échange de paroles.
Mmh. Oui, oui, vous avez suivi déjà nos auditeurs, ils sont revenus sur ce qu'ils attendent en retour après le paiement de tous ces fonds. Vous avez aussi suivi ceux qui ont parlé d'amélioration des conditions de travail et certains détournements de fonds. À votre avis, que pensez-vous de cette campagne sur le civisme fiscal?
Oui, ce que moi je peux dire, je demande d'abord à l'invité l'augmentation. Par exemple, à l'année 2009-2010, nous avions commencé à payer cette taxe-là de DGI par tranche. Donc, $5 après 4 mois. $5 après 4 mois.
Mais de quel impôt s'agit-il?
Oui, Direction Générale des Impôts, donc DGI, la DGI.
Et qu'est-ce que vous avez constaté?
Oui, je dis ceci. À l'année 2009-2010, nous avions commencé à payer, donc chaque, après 3 mois, bien 4 mois, nous payons $5. Mais pendant 2010-2011, nous commençons à payer $5 par chaque mois. Mais je demande qu'est-ce qui a fait cela pour ce taux-là de taxes. Et la seconde question.
Oui, c'est pourquoi Niembo voudrait savoir de quel impôt. Est-ce que c'est l'impôt sur le revenu? Est-ce que c'est l'impôt? Il y en a plusieurs. De quel impôt s'agit-il, Niembo?
Je disais DGI, Direction Générale des Impôts, DGI en sigle.
Bon, merci. Est-ce qu'il y a une autre préoccupation, Niembo?
Oui, la seconde aussi, je demande quel est l'avantage de ce taxe-là des DGI. Par exemple, je donne un exemple d'assurance. Nous payons les taxes pour ce service-là d'assurance. Si vous arrivez ou bien vous tombez dans un accident, ce service-là va vous occuper à cet accident. Donc, payer les coûts qui va apparaître à cet accident. Mais quel est l'avantage à ce...
Mais j'espère que vous n'avez pas confondu entre la vignette, le paiement de la vignette et l'assurance, parce que c'est deux choses vraiment totalement différentes. Hein. Je pense pas que... Bon, mais le directeur sera là, il pourra nous donner toutes ces explications. Merci Niembo de Salima. Bonjour Mozart.
Bonjour Radio Continue.
Vous êtes à Kisangani, nous vous écoutons.
Oui, je voulais simplement encourager les gens de la DGI dans leur campagne pour quelque chose qui est très important compte tenu de l'économie de notre pays.
Mm-hmm.
Et deuxièmement, je voulais demander à l'invité dans le studio de motiver effectivement ses agents qui sont dans cette campagne-là.
Mm-hmm.
Parce que il y a des réalités que nous vivons, bon... Rien ne sert de dénoncer le cas, mais je sais qu'ils ne maîtrisent pas tout ce qui se passe sur le terrain parce qu'il y a des choses choquantes qui se passent.
Mm-hmm.
Et troisièmement, je voulais aussi toujours demander à l'invité d'améliorer le mécanisme de perception. Parce que c'est avec ce que j'ai vécu, je disais ça. J'ai vu comment ça se passait tout ça, alors ce n'était pas bon.
Mais vous avez dit qu'il faudrait
dans cette entreprise et recevoir de l'argent. Parce qu'à l'entendre, il a dit qu'il doit être versé par la banque. Je l'ai bien suivi. Mais ce que j'ai vu, c'est que les agents de la DGI peuvent nous percevoir de l'argent au sein de l'entreprise. Et il y avait autant de situations irrégulières qu'on a vues et qu'on a vécues. Bon. On n'en pouvait rien parce que, bon, on était agent dans cette entreprise, mais on a le souci à ce que l'économie du pays puisse bien fonctionner avant, aller de l'avant.
Merci. Merci Mozart de Kisangani.
Parole aux auditeurs.
Nous revenons à vous, monsieur Locadi Pito. Vous avez suivi nos auditeurs, encore plusieurs préoccupations, et ils sont revenus en gros. Sur presque les mêmes questions qu'avaient posées les auditeurs précédents. Quelle est votre réaction, M. Lucadi?
Bon, merci, madame. Je crois que je vais revenir et faire peut-être un peu de commentaires sur certains points. En ce qui concerne la motivation des agents, je dois dire que le modalité de paiement de. Donc, il existe des dispositions légales qui réglementaires qui organisent en fait le mode de paiement des dettes envers l'État.
Mmh.
Et là, c'est clair que le paiement s'effectue auprès d'une institution financière agréée. Et si il n'existe pas d'institution financière agréée dans une localité, là, il y a une autorisation spéciale pour que les services puissent percevoir et reverser. Voilà. Peut-être qu'on est en face des services, disons des agents, disons des personnes qui se retrouvent dans des milieux où il n'y a pas de banque.
Mais ce témoignage de Kisangani, quand même à Kisangani, il y a des institutions financières,
bon,
la Banque centrale.
Oui, il y a aussi d'autres institutions qui interviennent. Mais dans tous les cas, nous voudrions appeler l'attention des contribuables sur le fait qu'ils doivent strictement se conformer à la loi. Parce que si quelqu'un a payé entre les mains d'un agent et qu'il a mal payé, naturellement, on devra lui exiger de payer une deuxième fois. Et puis deux, par rapport au comportement des agents, je crois que la lutte contre la fraude, le détournement, la corruption doit être l'affaire de tout le monde. C'est-à-dire les Congolais qui doivent payer, les contribuables qui doivent payer, s'ils estiment que il est harcelé par le service, il peut saisir le responsable hiérarchique pour dénoncer. Et je crois que la loi elle-même prévoit des mécanismes pour sécuriser les contribuables. Donc ce que nous faisons, ce n'est pas de l'arbitraire, mais nous ne faisons qu'appliquer les dispositions de la loi. Et c'est qu'on ne peut pas exiger à un contribuable de payer plus que le prévoit la loi. Parce que vous savez que la matière fiscale, c'est une matière qui est réglementé par la loi.
Mmh.
Donc, on ne peut pas sortir de ce qui est prévu par la loi.
C'est revenu même au taux d'impôt. Il y a certains, par exemple, Jeff de Kinshasa, qui estime que le taux, par exemple, pour sur l'impôt locatif est assez élevé.
Bon, l'impôt foncier ou bien l'impôt sur le revenu locatif, ce sont des matières qui ne relèvent plus de la Direction générale des impôts depuis, quelques années.
Mm-hmm.
C'est plutôt des impôts qui relèvent de la ville. Donc,
mm-hmm.
c'est la DGRK qui gère. Mais à ce que je sache, il y a, je crois, une année, le gouverneur, il y a quelques mois, le gouverneur est passé pour communiquer des réductions assez sensibles dans le but de pousser l'ensemble des assujettis à pouvoir se mettre en ordre.
Mm-hmm.
Ça veut dire qu'il y a quand même cette volonté-là qui est réelle. Par rapport à l'utilisation des différents fonds qui sont collectés, je crois que là aussi, j'ai déjà eu à répondre.
Mais est-ce que ça existe une publication, par exemple,
oui.
de ce que vous avez réceptionné, comment vous avez... et puis en fin de compte, bien sûr, au niveau du Parlement, au gouvernement, voir comment ça a été exécuté.
Naturellement, vous suivez tous les débats. Je vais prêcher par l'exemple pour ce qui est de l'année dernière, 2010. Vous avez suivi, on a communiqué les chiffres, les autorités ont communiqué les chiffres. C'est-à-dire que sur un objectif, pour ce qui est de la DGI, pour un objectif de 798 milliards, la DGI a réalisé 774 milliards, donc à peu près 97% des assignations. Donc les chiffres sont communiqués et vous le savez, dans le cadre du processus ITE,
mm-hmm.
Dans ce cadre-là aussi, les chiffres sont communiqués par les entreprises et par l'administration. Et il y a tout un mécanisme de confrontation de ces différents chiffres pour voir si ce qui a été communiqué correspond à la réalité. C'est-à-dire que les chiffres sont bel et bien communiqués. Et je crois que les parlementaires aussi, le travail qu'ils font, c'est justement ça, ils passent régulièrement pour vérifier si la perception est faite correctement.
Nous allons revenir à vous pour la petite conclusion, parce que quand même c'est assez important. Nous avons une dame au bout du fil, c'est assez rare que nous ayons des dames. Bonjour, Madame Marie.
Je voulais poser la question à votre invité.
Mm-hmm.
Est-ce que toutes les maisons ou tous les immeubles qui croissent à travers Kinshasa ou dans certains coins de la République sont fiscalisés? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, il vient de parler des publications de chiffres, qui est une chose quand même importante. Quels sont les canaux par lesquels ces chiffres sont publiés et ces chiffres qui nous publient, est-ce qu'ils ne sont pas en deçà? Sinon, comment expliquer une entreprise qui fait des prouesses et qui, quelques temps après, affiche, disons, c'est dit qu'il est quelqu'un en temps frais si jamais l'État n'intervient. Voilà,
merci, Madame Marie, et nous vous encourageons de pouvoir de temps en temps nous appeler pour participer à ces émissions, surtout les femmes. Nous prenons Polycarpe, qui sera le dernier auditeur de cette émission. Bonjour.
Bonjour, Madame Marie Chantal.
Amboujimaï, nous vous écoutons.
Madame, j'ai deux préoccupations au sujet de paiement d'impôts dans notre pays. C'est bien de faire la campagne de paiement d'impôts dans tous les niveaux, c'est très bien, nous sommes d'accord de contribuer à ce système, mais nous avons constaté que la DGI se préoccupe beaucoup de la maximisation des recettes, mais les contribuables semblent être rançonnés par des retenues à la source dans le système d'enregistrement d'un seul numéro pour l'entreprise. Alors, il paraîtrait que, puisque c'est l'entreprise qui est enregistrée, et lorsqu'il faut payer, les travailleurs payent et ils ne savent pas si ce qu'ils payent, c'est exactement ce qui est prévu par la loi, ou ils sont en train de payer le surplus. Et en plus, lorsque nous considérons la vie des agents de régie financière, dont la DGI, nous nous rendons compte qu'il peut y avoir soit de trop perçus, soit il y a une négligence quelque part qui permet que lorsque les gens qui travaillent à la DGI ne sont même pas payés, ou ils sont payés, mais la vie qu'ils mènent nous donne l'impression qu'ils vivent au-delà de tous les moyens possibles. C'est pour cela que mon intervention, je souhaite qu'on puisse vérifier. Qu'est-ce qui se passe dans le cadre de retenue à la source dans les entreprises?
S'il vous plaît, Polycarpe,
vivent au-delà de leurs moyens et ils vivent dans une opulence qui frise le scandale. C'est ça ce que je voulais vous donner comme intervention.
Merci, Polycarpe. Vraiment, ça arrive presque à la fin de cette émission. Nous vous remercions pour votre intervention. Nous allons redonner la parole à notre invité, M. Dieudonné Locadi, le directeur général de la DGI. En conclusion, et au regard aussi des préoccupations, des dernières préoccupations de nos deux derniers auditeurs.
Oui, l'impôt personnel sur les rémunérations est effectivement retenu à la source par l'employeur pour compte de ses employés. C'est lui qui est chargé de pouvoir reverser, et je le disais, l'échéance pour 2010, c'est d'ailleurs aujourd'hui. Mais en fait, à la date d'aujourd'hui, on dépose aussi un relevé récapitulatif, comme je dis, avec les détails pour chaque employé, ce qui permet à chacun de pouvoir vérifier si ce qu'on a versé pour son compte est conforme à ce qu'on a, on avait retenu chaque mois. Donc, on a la possibilité de pouvoir vérifier. Pour ce qui est du comportement de l'agent, je crois que j'ai répondu en disant que on peut dénoncer des cas de comportement qui sont indélicats.
Et pour la publication, les perceptions que vous avez reçues, c'est par quel canot, Madame Marie, qui de qui ça sort?
Bon, j'ai dit d'abord pour toutes les industries extractives, c'est dans l'état du processus liquide, c'est-à-dire il y a des fiches, nous communiquons les différents impôts que nous avons perçus, les différents contribuables. Mais dans tous les cas, les informations sont disponibles par les canaux de parlementaires qui ont en charge le contrôle de nos services. On peut avoir la traçabilité de toutes les recettes. Parce qu'en fait, les recettes, comme je le disais, sont versées au compte du trésor. Les paiements ne s'effectuent pas auprès de la régie. Donc, on peut être, on peut être aussi apaisé par rapport à cette préoccupation-là.
Donc, il revient aux parlementaires de pouvoir faire pression, comme c'est même une de ses prérogatives.
Parce que les parlementaires sont nos représentants. C'est à eux de pouvoir contrôler, pouvoir si les droits de la population sont en train d'être bien sauvegardés.
En conclusion, en rapport avec cette campagne sur le civisme fiscal, que vous retenir?
En conclusion, je dirais que c'est une bonne chose que la population puisse être éveillés par rapport à la question fiscale, mais je crois que nous ne sommes pas encore parvenus à notre but. Notre but serait que la question fiscale soit au centre des débats même dans notre pays, au débat au niveau du Parlement, mais aussi au niveau même de la communauté. Parce qu'en fait, on s'intéresse souvent aux dépenses. Mais pour qu'on puisse dépenser, il faut d'abord qu'on puisse mobiliser le moyen. Donc il est important que nous puissions, nous tous, et chacun suivant sa capacité, il est fait que celui qui a des revenus plus importants devrait aussi contribuer plus. Oui. Et ceux qui ont des revenus faibles, ils devraient...
Il faut mettre en place des lois pour pouvoir...
Les lois existent, madame. C'est une question d'application, de sensibilisation et d'implication de tout le monde. Et un bon système, on le dit toujours, on ne le dira jamais assez, c'est un système où tout le monde paye. Et je crois que nous devions être fiers lorsque nous payons nos impôts. Et là, je dis que, parce que quelqu'un a posé la question, les agents des régies payent effectivement leurs impôts professionnels sur les rémunérations, et cela est vérifiable. Et c'est ça qui donne aussi notre fierté et qui nous donne la force de pouvoir clamer tout fort et appeler les autres aussi à pouvoir se mettre en
tout cas, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci, monsieur Dieudonné Lokadi, d'avoir accepté notre invitation. Nous disons aussi merci à tous les auditeurs qui ont participé à cette émission. Nous allons nous retrouver demain pour un nouveau sujet de parole aux auditeurs. Nous allons parler de la proposition de loi portant institution de la redevance annuelle sur les appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision et aussi des nouvelles technologies de l'information et de communication. Une proposition de loi qui est en discussion au Parlement. Comment réagissez-vous face à cette proposition de loi? Vous pouvez réagir dès à présent nous écrivant à l'adresse internet pa@radiofatigue.net. À demain.
Il est 12h.